Des mots pour le dire.
Une émission de Redouane Esponti avec Michel Théron.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au coin de la cheminée pour se réchauffer avec les mots et la culture. C'est pas toujours donné à tout le monde d'y accéder, d'ailleurs c'est ce que disait Hélène Ouvrard comme une sorte de photographie sur notre société. Elle dit il faut être riche de temps ni d'argent pour avoir une vie intellectuelle. La culture n'est pas à la portée des démunis de la société. Malheureusement c'est un constat, c'est vrai que accéder à tout cela, et c'est pour cela, en raison de cela que FM Plus se lance à cœur ouvert à la découverte des mots et de la culture, avec Michel Théron. Bonjour Michel.
Bonjour Edouane, bonjour à tous.
Alors j'ai deux autres citations que je voudrais partager avec vous, de ce que disait Jean-Claude Carrière. Il disait « Pour certains, la culture est une boucle d'oreille, pour d'autres, c'est une oreille ». Alors j'aime beaucoup cette expression. Et enfin, puisqu'on est dans le temps de Noël, un temps très religieux, Maurice Merleau-Ponty disait dans son extrait de Sens et non-sens, la religion fait partie de la culture, non comme un dogme, ni même comme croyance, mais comme un cri.
Oui, tout à fait. Moi, je pense à une autre citation. La culture est comme la confiture. Moins on en a, plus on l'étale.
Oh, on en connaît un certain nombre comme ça.
Voilà. Donc, où en sommes-nous? Eh bien, nous essayons de classer les constructions symboliques qui sont à la base des cultures, d'en faire une typologie, d'en dresser une carte. Une typologie, c'est un classement. Alors, la dernière fois, nous avions parlé de la fable de La Fontaine, le chêne et le roseau, et nous avions opposé la lutte incarnée par le chêne à l'attitude du roseau qui incarne la soumission, le fait de plier. Et nous avions dit qu'il y avait des cultures de la lutte et plutôt des cultures de la soumission. Eh bien, maintenant, enchaînons et essayons de considérer un autre doublé, le doublé masculin-féminin. Ce doublé est peut-être aussi un principe de classement qui est intéressant à employer. Alors peut-être qu'une attitude de lutte est plus spécifiquement masculine et une attitude de soumission plus spécifiquement féminine. Alors bien entendu, il ne faut pas prendre les modèles culturels de façon neutre, mais peut-être sont-ils sexuellement déterminés. Tout système anthropologique, toute représentation symbolique ou toute vision du monde reflète sans doute la prévalence d'un modèle qui est soit masculin, soit féminin. Alors je m'excuse par avance auprès des auditeurs qui penseraient...
Et des auditrices.
Et des auditrices, oui, surtout.
Masculin, féminin.
Oui, oui. Qui penseraient que masculin et féminin ne sont que des constructions culturelles et ne correspondent à rien, en rien, d'un point de vue anthropologique. Hein. C'est vrai que le discours que je vais tenir peut paraître un discours traditionnel, pourquoi pas passéiste, il n'est pas dans la mouvance de l'actualité, où ces rôles apparaissent comme interchangeables. Mais tant pis, eh bien écoutez, j'assume cette préférence. On a toujours pensé que l'homme était quelqu'un qui s'affirmait lui-même et la femme valorisait au contraire l'accueil inconditionnel des choses sans chercher l'affirmation de l'ego. Alors pourquoi déplorer aujourd'hui, par exemple, que les femmes ne valorisent pas spontanément l'auto-affirmation, la mise en avant du moi ou la marque laissée sur les choses? L'ambition, me semble-t-il, est une valeur essentiellement masculine. Pourquoi la femme, alors donc Redouane, pour reprendre votre objection, les féministes principalement, devraient-elles faire sienne des valeurs masculines? La vie cachée, on la trouve terne d'habitude, mais est-ce qu'il est meilleur de vouloir quotidiennement éclabousser tout le monde autour de soi et de passer sa vie à étrangler son voisin, vous voyez? Alors, c'est vrai que notre culture valorise le modèle masculin, ça je ne le nie pas. Il suffit de regarder la grammaire, par exemple, hein. Le masculin l'emporte sur le féminin. Donc, que le modèle valorisé chez nous soit masculin est une évidence, mais l'imposture, à mon sens, hein, de certains féminismes, c'est de vouloir imposer à la femme des valeurs qui ne lui appartiennent pas en propre. Donc je dirais s'il y a une contradiction, par exemple, dans la lutte des classes, c'est une contradiction secondaire à côté de la lutte des sexes qui est une contradiction, je dirais, primaire. Et je pense qu'il y a une certaine naïveté à postuler une équivalence de fait entre hommes et femmes et à confondre identité de droit, bien entendu, pour laquelle nous devons lutter, identité de droit et identité psychologique qui, à mon sens, pose un certain problème. Alors je sais bien que les féministes, comme Simone de Beauvoir disait, on ne naît pas femme, on le devient. Elisabeth Badinter nous dit aussi que l'un et l'autre, hein. C'est peut-être vrai, je l'admets. Mais je pense que la tâche culturelle de l'Occident est plutôt de réévaluer l'exclusion qu'il a faite de sa part féminine, qu'il a de tout temps diabolisée et refoulée. Non pas pour affirmer une identité entre hommes et femmes, chose qui me semble assez chimérique, mais pour mieux comprendre leurs différences. Comprendre que notre culture est masculine, c'est comprendre qu'il y a des cultures féminines bien différentes. Par exemple, chez nous, la femme a été décrétée sorcière dès le Moyen-Âge, elle a été brûlée sur les bûchers. C'est la part refoulée de l'Occident. Il y a un livre de Michelet qui s'appelle « La sorcière » et qui parle bien de tout cela. J'entendais l'autre jour à la radio Boris Cyrulnik qu'il nous disait qu'il y a une différence dans les jeux entre les petits garçons et les petites filles. Je ne sais pas votre avis, Redouane, mais petits garçons et petites filles, d'après Cyrulnik, ne se comportent pas de la même façon. Les premiers se battent, cherchent le combat, l'affirmation, et les secondes cherchent un contact qui passe souvent par le langage, entrer en contact, mais alors pas un full contact, hein, pas une bagarre, hein, mais un contact de langage. Je crois que, et d'ailleurs, après, bien plus tard, cela se retrouve, hein, l'homme, dans sa recherche de la femme, recherchera la sidération par une image que Jung a appelé l'anima, hein, qui est son idéal féminin, et tandis qu'une femme va rechercher une histoire, un contact ou une histoire. « Un jour, mon prince viendra », c'est une phrase féminine, me semble-t-il. Alors que dans ces histoires d'amour, l'homme cherche peut-être la possession physique, bien entendu, dans le cas de Don Juan, mais aussi la sidération par une image, sans qu'il y ait forcément de vrai contact humain.
Alors peut-être il faudrait chercher dans tout le patrimoine psychologique, dans l'inconscient, parce qu'on ne vient pas de nulle part, mais on vient de l'homme de Néandertal, et que quelque part on a de cela en nous. Et on le voit, c'est vrai que j'ai deux garçons et deux filles. C'est plutôt avec les garçons, on simule une bagarre, enfin on simule la bataille. C'est physiquement, il y a quelque chose qui se joue. Et avec les filles, c'est vrai que les choses sont différentes. Mais même au niveau des garçons, c'est-à-dire au bout d'un moment, quand le physique n'est plus là, on va développer non plus la force, mais autre chose. C'est-à-dire on va pallier à la faiblesse physique par le jugement, par l'esquive. Mais c'est vrai que quelque part, il y a une déspécificité, et je crois que c'est ce qui fait partie de l'altérité, c'est ce qui fait la richesse de la diversité humaine.
Absolument, et s'agissant du rapport au corps, l'homme souvent va cravacher son corps pour en obtenir un record, une performance maximale. Tandis que la femme, eh bien, elle accepte son corps, ne serait-ce que parce que périodiquement, ce corps
parce
se rappelle.
De moins en moins, parce qu'aujourd'hui, il y a aussi le diktat de la forme. On doit être comme ci, comme ça. Et c'est vrai que ce diktat oblige certaines femmes à faire subir une certaine torture à leur corps.
C'est vrai. Mais regardez aussi, s'agissant de la danse, les hommes, les danseurs sautent de plus en plus haut. hop là, bon, Nijinsky, il saute, hein, tandis que la femme, elle a une danse plutôt faite de reptation. La danse orientale, par exemple, ou la danse indienne, c'est une danse en contact avec la terre, les forces telluriques. Elle ne cherche pas à sauter et à aller hors de la terre, mais à faire corps ou symbiose avec elle. Donc, Robert Graves, qui était un écrivain et poète anglais, disait « Man does, woman is », c'est-à-dire « l'homme fait et la femme est hein. ». Eh bien, c'est tout à l'avantage de la femme, me semble-t-il, ça. Hein. Je trouve que, par exemple, prenez la cruauté et la violence, c'est inadmissible pour une femme. Dans le film de Ken Russell qui s'appelle Love, on voit, d'après le roman de Lawrence qui s'appelle Woman in Love, on voit une femme horrifiée par un cavalier brutalisant son cheval. Nous avons déjà évoqué le cas de Nietzsche, qui s'était effondré à Turin en voyant un cocher martyrisant son cheval. Eh bien là, c'est le côté féminoïde de Nietzsche qui l'a emporté sur son côté masculin. Vous voyez, ce Robert Graves dont je vous parlais voulait un retour au matriarcat, par-delà le patriarcat. Mais c'est par le matriarcat que l'humanité a commencé, hein. Quand l'homme ne se sentait pas à l'origine impliqué dans la génération, comme la femme donnait la vie, eh bien, il y a eu l'adoration des grandes déesses, hein, des déesses de la fécondité. Le patriarcat n'est arrivé que quand l'homme s'est rendu compte qu'il avait un rôle à jouer dans la génération. Et alors là, il y a eu l'oppression maintenant séculaire, justement, des femmes par les hommes. Alors, pour le premier christianisme, je ne sais pas votre avis, Redouane, mais Romain Gary disait que Jésus était le premier homme à avoir parlé d'une voix féminine, vous voyez. Peut-être qu'il était féminoïde, ce premier christianisme, pendant un millénaire, hein. Et Lévi-Strauss, dans Triste Tropique, nous dit « L'Occident a perdu sa chance de rester femme ». Prenez ce premier millénaire, c'est le monachisme et les moines avec leurs habits, hein, ont une tenue féminine. Le chant grégorien n'est pas dynamique, hein, c'est un chant psalmodié. La voûte romane aussi, c'est comme un berceau qui nous accueille et comme une espèce de matrice ou d'utérus en quelque sorte. Par contre, à partir du XIIIe siècle, on a élevé les cathédrales. Alors, les cathédrales, c'est une flèche qui s'élève vers le ciel de façon phallique, en quelque sorte, pour escalader le ciel. Et donc là, le christianisme est devenu masculin. Peut-être au contact de l'islam, au cours des croisades. C'est l'idée de Lévi-Strauss, je la lui laisse comme idée. Mais disons que jusqu'au XIIIe siècle, non compris, le christianisme était plutôt féminin. Et ensuite, est venue une autre vision. Alors, il est vrai que dans la psyché masculine, le féminin fait peur, hein. La femme fait peur à l'homme par l'exclusivité de son désir. L'homme décrète la femme hystérique dès lors, hein. Le désir féminin vient des profondeurs de son corps. On disait autrefois tota mulier in utero, c'est-à-dire la femme tout entière est dans son utérus. On parlait des fureurs utérines à propos de Phèdre, etc. Vous voyez, hein. Donc c'est vrai que la femme, quand elle aime, se fixe un peu hystériquement sur son objet, et il y a là, je le disais tout à l'heure, deux façons différentes d'aimer. Je dirais que l'homme cherche la femme avec un grand F, c'est une figure de son anima, dans toutes les femmes qu'il rencontre, hein, et il poursuit toujours cette image idéale par quoi il veut être sidéré, tandis que la femme, au contraire, va réunir tous les hommes dans l'homme qu'elle aime. Alors, le premier, l'homme, est, selon le mot de Jacques Lacan, condamné à la perversion, puisqu'il confronte toujours une image idéale, un archétype, avec une réalité. Mais la seconde, alors, toujours pour reprendre les termes de Lacan, mais ils sont pleins d'humour, bien sûr, serait condamnée à la psychose. L'homme a dit que toutes les femmes étaient folles. Bon, il faut comprendre ça symboliquement, bien sûr. Mais c'est vrai que dans l'amour, l'homme confronte un être et une image, et la femme se fixe irrévocablement sur un être, toute faculté confondue. Il y a même, dans la psyché masculine, une disjonction fréquente entre le désir physique et l'amour. c'est le fruit peut-être de la situation dite œdipienne, de la fixation idéalisée du petit garçon sur sa mère et de la prohibition de l'inceste dans la civilisation occidentale. Donc là, la femme va être sacralisée, mais il est interdit de s'unir à elle. Ce complexe d'Œdipe, à la différence de ce que certains disent, n'existe pas autant, me semble-t-il, chez la femme. Souvent, pas toujours bien sûr, l'homme distingue les femmes qu'il aime et celles qu'il désire. Celles qu'il aime, il ne les désire pas, il est sidéré par elles en tant qu'incarnation de l'anima, et celles qu'il désire, il ne les aime pas. Et parfois même, hélas, l'homme a parfois besoin de mépriser pour désirer. Eh bien, ce schéma ne me semble pas exister identiquement chez la femme. Une femme amoureuse va s'impliquer totalement dans sa passion, à la fois du point de vue de son corps, de son âme, de son imaginaire. D'où cette impression de folie ou de possession qu'elle donne. Et les cultures masculines, viriles, souvent machistes, s'effraient de cette fixation, de cette omnubilation. Si l'homme est logos, c'est-à-dire calcul, langage, la femme, elle est éros. Et la passion dévorante, définitive et exigeant la fidélité, voilà le pôle féminin de l'être qui est incarné, par exemple, dans le mythe de Tristan et Iseut. Au contraire, le mythe de Don Juan, dont je parlais tout à l'heure, serait masculin. C'est le mythe du chatoiement des images, des archétypes devant le regard. Et ce sont des métamorphoses, comme je l'ai dit, successives de l'anima du héros. La femme essaie de retenir l'homme qu'elle aime, l'homme poursuit quelque chose. Femme est ce qui en l'homme retient les choses, et homme est ce qui les conquiert. Donc, pour voir cette exigence de fidélité chez la femme, voyez par exemple le discours de Camille dans « On ne badine pas avec l'amour » d'Alfred de Musset, et sur le nomadisme masculin, voyez l'insoutenable légèreté de l'être de Milan Kundera. Alors bien sûr, je ne défends pas ici du tout une position par rapport à l'autre. Je constate simplement qu'une culture phallocratique va transformer la différence homme-femme en oppression. Ainsi, Alma Viva dit de façon tout à fait cynique dans Le mariage de Figaro de Beaumarchais, « Notre rôle fut de vous obtenir le vôtre et de nous retenir. » Et je pense que, à la base, il y a une différence anthropologique ou psychologique, mais bien sûr, il y a une utilisation sociale de cette opposition qu'il faut critiquer, bien sûr. Hommes et femmes, semble-t-il, sont sur les deux rives d'un large fleuve, très éloignés l'un de l'autre. Le désir n'est pas le même, les rythmes, la chronologie des sensations, les visions du monde non plus. Il y a là une disharmonie fondamentale. Voyez par exemple comment Flaubert décrit Madame Bovary s'abandonnant à Rodolphe dans le roman qui porte ce titre, le roman éponyme, dans Madame Bovary. Alors, Emma vient de connaître sa première émotion amoureuse, et Flaubert écrit « Alors elle entendit un cri vague et prolongé, et elle l'écoutait silencieusement dans une dernière vibration de ses nerfs émus. » Elle est là toute énamourée, toute pénétrée justement de ce qu'elle vient d'éprouver. Et alors après, vous avez une phrase qui claque comme un coup de fouet. « Rodolphe, le cigare aux dents, raccommodait avec son canif une des deux brides cassées. » Eh bien ça, c'est un très grand écrivain que de montrer, non pas de démontrer la différence homme-femme, mais de la montrer par une attitude. Une fois que l'homme a obtenu ce qu'il voulait, il va se mettre à bricoler. Il fume, il raccommode, etc. Tandis qu'Emma est encore toute alanguie. Donc je dirais que l'homme était naturellement extraverti, impétueux dans ses désirs, il est feu, il est jour, et la femme serait plutôt introvertie et stable, elle serait plus haut et nuit. Par exemple, toute représentation du savoir humain en termes de vision est une représentation masculine. En toutes circonstances, l'homme veut voir les choses beaucoup plus que la femme. Regardez le dialogue entre Gabin et Morgan dans Quai des Brumes de Carnet. Hein. Gabin dit, dialogue très célèbre, Gabin dit à Morgan, t'as de beaux yeux, tu sais. Il parle. Et Morgan répond, embrassez-moi. Et elle ferme les yeux. Vous voyez la différence, hein. Donc, l'homme parle, hein, et la femme préfère fermer les yeux. Et, bon, cette, Freud disait, la femme est le continent noir de la... qu'on ne pourra jamais explorer. Il a avoué son incompétence. Hein. Alors, je dirais que, s'agissant du désir physique, la femme ne fait pas volontiers l'amour sans amour, c'est-à-dire sans sentiment, ou au moins sans désir. Et chez l'homme, c'est parfois différent. Les deux choses sont séparées. Et pour conclure, je dirais ici que l'homme est prêt à tout pour faire l'amour, y compris à aimer, et tandis que la femme est prête à tout pour aimer, y compris à faire l'amour. Vous voyez, c'est là une différence. Alors j'ai choisi comme première illustration une chanson très connue d'Edith Piaf qui montre cette exclusivité.
Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre de bien s'écrouler. Je m'abandonne si tu m'aimes. Je me fous du monde entier. Tant que l'amour inondera mes mains, tant que mon corps frémira sous tes mains. Je me ferai teindre en blonde si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me le demandais. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. La vie t'arrache à moi. Si tu meurs, que tu sois loin de moi. Je m'abandonne si tu m'aimes. Par moi je mourrai aussi. Que nous aurons pour nous l'éternité.
Vous êtes sur FM+, dans l'émission Des mots pour le dire.
Des mots pour le dire, avec toujours Michel Théron, avec l'épisode d'aujourd'hui, je dirais, dans toute la saga que nous essayons de mettre en place, masculin, féminin, c'est l'éternel débat, l'éternelle question. Et on est toujours à la fois dans une continuité, discontinuité, opposition entre mœurs nouvelles, mœurs différentes, anciennes. Mais il y a quelque chose qui peut-être traverse le temps.
Oui, alors je ne sais pas quelles seront les réactions des auditeurs là-dessus. Peut-être considéreront-ils mon discours comme passéiste, comme traditionnaliste. Peut-être diront-ils qu'aujourd'hui, les rapports hommes-femmes ont bien changé, que ce dont je parle ne sont que des modes culturels de représenter l'homme et la femme. Bon, je laisse penser les gens, bien sûr, ce qu'ils veulent, mais quand même, on vient d'entendre dans cet hymne à l'amour d'Édith Piaf, cette focalisation, je dirais, exclusive d'un être sur l'objet de son amour, qui peut faire peur à l'homme. Et cette lutte des sexes, elle existe depuis toujours, elle existe depuis toujours. Par exemple, au début de sa théogonie, Hésiode raconte qu'Ouranos, Ouranos ça veut dire le ciel en grec, le ciel père s'unit à Gaïa, qui veut dire la terre mère. Donc il y a ce qu'on appelle une hiérogamie, c'est-à-dire un mariage sacré entre le ciel père et la terre mère. Et de cette union sacrée, de cette hiérogamie, naissent les titans. Alors les titans sont des forces dévastatrices. Ouranos jette les titans dévastateurs dans le Tartare. Alors là, vous voyez, Térédoine, je dirais que tout père fait la même chose avec ses enfants. Lorsqu'il les punit, quand il les met au coin, vous voyez, hein, la réaction d'Ouranos devant les titans dévastateurs, ça, il y a des enfants qui sont pires qu'Attila, l'herbe ne repousse pas où ils sont passés. Alors, Ouranos, justement, donc, jette ses titans dans le Tartare. Mais alors Gaïa, la réaction de Gaïa, eh bien, et là aussi, elle est fréquente, hein. Gaïa va libérer les titans et va les inciter à la révolte. Vous voyez, souvent, je pense chez Fedor, par exemple, dans On purge bébé, hein, on voit l'héroïne défendre toujours son enfant contre le père. Hein. L'enfant est une partie d'elle, en quelque sorte. Hein. Alors, un des titans, qui s'appelle Chronos, c'est un mot grec qui veut dire le temps, eh bien, il va émasculer son père et le détrôner. Donc on voit que Gaïa, la mère, a pris le parti de ses enfants contre Ouranos. Alors pourquoi? Est-ce qu'elle a été forcée par Ouranos? Est-ce que la hiérogamie dont j'ai parlé était un viol? Je ne sais pas. Mais on voit en tout cas que la haine des sexes commence avec l'apparition de la vie. Elle accompagne ensuite la vie de chaque être humain et habite son inconscient, vous voyez. Alors, on a interprété la théogonie d'Hésiode comme la lutte de deux principes, l'attachement à l'esprit père et le désir de réunion à la matière mère. Un peu comme dans la flûte enchantée de Mozart, Zarathustra incarne le jour, le père, contre la reine de la nuit, qui est maléfique, c'est un opéra maçonnique, ne l'oubliez pas, qui incarne justement l'obscurité, le féminin, mais diabolisé, si vous voulez. Hein. Donc, on pourrait classer les modèles et les productions culturelles dans leur ensemble, suivant l'un ou l'autre de ces deux pôles. Il y a des religions, par exemple, de la matière mère, et des religions de l'esprit père. Les religions de la nature ou de l'immanence du divin sont plutôt du premier type, sont des religions féminines. Et celles qui posent au contraire une divinité transcendante, comme chez nous par exemple dans les trois religions abrahamiques, hein, sont plutôt des religions masculines. Alors aujourd'hui, après des siècles d'une culture masculine dominatrice, on voit se développer parfois des signes réactionnels d'une culture féminine. Par exemple, dans le monde antique, il y avait les cultes de Cybèle, les Corybantes, le culte de la Grande Mère, Lucrèce y fait allusion, vous voyez. Donc aujourd'hui, il y a de nouveau des cultes orgiaques ou orgiastiques, un nouveau tribalisme, en quelque sorte. Hein. Et alors, je vais prendre un petit exemple. Prenons l'exemple de la toxicomanie des jeunes. Eh bien, il me semble qu'elle vient en grande partie de ce que le père y est absent, soit en tant qu'être réel, soit en tant que modèle culturel et social. Lorsqu'un jeune se drogue, par exemple, sa mère ne peut pas faire grand-chose d'autre que de compatir ou de l'accompagner dans sa dérive. Mais il y a des cas où rassurer, comprendre et pardonner ne suffisent plus. C'est le Père qui doit incarner la loi. Je crois que, même si ce n'est pas à la mode, je le répète pour la énième fois, je pense qu'on a intérêt à garder ces deux pôles. Sénèque dit dans une de ses lettres à Lucilius quelque chose de très intéressant. Il parle de la façon dont les pères et les mères traitent différemment leurs enfants. « Ne vois-tu pas, dit-il, combien les pères et les mères les aiment différemment ? Alors ceux-là, les pères leur arrachent sueur et larmes, sudorem et lacrima excutiunt. » Lorsque je traduisais ça, je faisais traduire ça à mes élèves, ils traduisaient cela, ils les font suer, vous voyez ? Donc une formule familière. Et tandis que les mères les réchauffent contre leur sein, semper fauere in sinu, les réchauffent contre leur sein. Donc le père incarne l'exigence, le langage, la loi, tandis que la mère incarne la chaleur, le silence, l'accueil inconditionnel. Ce sont deux modèles différents, complémentaires. Alors là aussi, évidemment, aujourd'hui, il y a beaucoup de familles monoparentales où la mère doit incarner les deux fonctions, par exemple, quand il s'agit de la mère. Vous voyez, c'est vrai que c'est un peu archaïque ce que je dis, mais je crois quand même que...
Ça dépend, archaïque, non, ça reste, disons, fondamental, même si l'évolution familiale, la parentalité n'a plus la même image. Mais il y a des fondements, je veux dire, qui restent, qui persistent.
Tout à fait, je pense que...
C'est le background de notre culture d'aujourd'hui, malgré tout.
L'arrière-plan. Et quand il y a carence d'un des deux pôles, à ce moment-là, il n'y a pas équilibre. Les deux rôles sont distincts. Même leur nom, les sonorités de leur nom sont différentes. Vous avez une sonorité dure dans père, le P. P, on pense à une porte qui claque. Claque, voilà. Et l'autre dans le M de maman, vous avez une sonorité douce qui fait penser à une caresse, à une friandise que l'on suce. Alors, peu importe ce que sont le père et la mère réels, on n'a pas affaire ici avec des réalités, mais avec des archétypes fonctionnels. L'exemple que je viens de prendre, je l'ai emprunté à Françoise Dolto. Françoise Dolto était une psychanalyste spécialisée dans la thérapie des enfants. Et voici ce qu'elle dit. Il s'agit de rôle. Mamma, ça veut dire qui vient à moi pour me faire moi. C'est mou, mamma, c'est la nourriture. Ça passe dans le tube digestif qui est malléable et tout ça. Tandis que papa, c'est la dureté du départ, avec de la peine que cette personne s'en aille et revienne. Et c'est quelque chose de dur, le départ, et dans toutes les langues. On trouverait ça dans d'autres langues, daddy, mummy en anglais, etc. Donc, le mot papa, c'est celui qui veut dire la personne qu'on aime, mais qui s'en va et qui revient. Il y a une rupture. Tandis que maman, c'est le continuum. Alors, bien sûr, le père de naissance et la mère de naissance ne correspondent pas forcément toujours à ces archétypes, à ces modèles idéaux. Il y a bien des mères de naissance qui ne sont pas des mamans au sens de Françoise Dolto. Et il y a bien des mamans qui adoptent des enfants qui sont plus maternelles que les mères de naissance. Elles ont le rôle de maman parce qu'elles s'occupent de l'enfant. Dolto écrit « N'importe quelle femme qui, quand on lui demande son goûter, vous le donne, c'est une maman. Et n'importe qui vous donne des soins sans trop vous brusquer, c'est une maman. Mais la mère de naissance est autre chose. » Bon, bien sûr, moi je prends le cas d'une infirmière. Je ne sais pas, je vais peut-être faire rire les auditeurs, mais je préférerais être soigné par une infirmière que par un infirmier. Je n'ai rien contre les infirmiers, mais je trouve qu'il y a quand même une relation maternante qui est ancrée au fond de l'inconscient. Alors quitte à passer pour un rétrograde, tant pis. Alors certains vont me dire, oui mais alors, le signe verbal père-mère est arbitraire. Il y a là du cratilisme. Alors qu'est-ce que ça veut dire cratilisme ? Cratilisme renvoie à un dialogue de Platon intitulé Cratyle, où le personnage de Cratyle pense qu'il y a un lien entre le nom et la chose désignée. C'est évidemment souvent une illusion. C'est souvent une illusion. Par exemple, lune et soleil n'ont pas le même genre en français et en allemand. Hein, vous voyez, donc on pourrait dire la lune et le soleil, féminin, masculin, mais en allemand, ce n'est pas le cas. Donc, à ce moment-là, il faut regarder tout ça avec une certaine, comment dire, distance. Mais quand même, alors, méditons sur des images. Prenons l'image de Jupiter tonnant, par exemple, porteur de foudre. Eh bien, c'est l'archétype du père. Si vous le considérez, vous en avez peur. Je crois qu'il y a dans Antigone une statue, un moulage de Zeus jetant la foudre. Hein, c'est ça, le Jupiter tonnant à Montpellier. Bon, et à l'inverse, si vous considérez l'image d'une Madone à l'enfant, alors vous pouvez méditer sur l'archétype de la mère. Hein. Et là, on passe dans le domaine non pas du psychologique individuel, mais du symbolique. Le père, il a une voix forte. Bon, on n'y peut rien. Hein. Et s'il n'a pas cette voix forte, il ne peut pas incarner le rôle de Jupiter tonnant. Le père a de la barbe. Hein. Et effectivement, on peut dire que l'enfant se pique contre le père. Tandis que la mère a une peau douce et une voix douce. Alors, évidemment, le discours moderne va rire de ça. Hein. Mais je pense que ce n'est pas interchangeable. Le symbolique a ses règles. Par exemple, est-ce qu'il peut y avoir des papas poules? Bon, est-ce que le père peut singer la mère? Paterner un enfant, est-ce que ça équivaut à le materner? Le psychiatre Aldo Nauri, dans Une place pour le père, qui est un livre intéressant, dit que les deux rôles sont bien distincts. Et alors, prenez le cas d'une femme qui aujourd'hui déciderait d'élever seule son enfant, ou d'enfanter même sans connaître d'homme, par fécondation artificielle, qu'est-ce qu'on peut en penser? Je ne me prononce pas encore une fois là-dessus, définitivement, mais je dis qu'il faut réfléchir, et que ce père absent, est-ce que plus tard, l'enfant ne va pas le regretter? D'ailleurs, quand le père est absent, c'est l'oncle qui est l'éducateur. Hein. Regardez par exemple Oncle Donald, là, ceux qui lisent Picsou Magazine, vous voyez, c'est l'oncle l'éducateur de ses neveux, vous voyez. Donc, je crois quand même que les deux rôles sont bien différenciés. Hein. Et le père incarne l'extérieur, la société, c'est un rôle social. Regardez les titres de Pagnol, par exemple. « La gloire de mon père et le château de ma mère ». La gloire de mon père, c'est l'extérieur, hein, c'est la vision, justement, que le père va donner à son enfant comme modèle, s'affirmer dans la société. Et le château, au contraire, c'est le silence, le repliement, le refuge. Ce n'est pas indifférent. Hein. Ce sont très bien choisis, ces deux titres. Alors, voilà, je ne sais pas, Redouane, si les auditeurs vont réagir sur cette émission. Vont-ils dire que, c'est un discours complètement passéiste? Peut-être non.
C'est une photographie d'un moment donné. Je veux dire, on ne peut pas nier. Alors, évidemment, on est dans une phase de mutation de la société, et même dans cette phase de mutation, il y a aussi des crispations. On va se durcir les rôles du père et du rôle de la mère. Parce que, aussi, pour les hommes et les femmes, c'est plutôt rassurant dans un temps d'incertitude.
D'accord.
Mais bon, on est dans cette phase de mutation, comme toute phase de mutation, il y a des choses qui sont un peu plus compliquées à analyser.
Mais quand même, dans la maternité, le lien ombilical n'est pas coupé. Hein. Dans Sido de Colette, on voit que Sido, c'était Sidonie, la mère de Colette. Hein. Colette a écrit ce livre à la louange de sa mère. Eh bien, son refrain, le mantra de Sido, c'était « Où sont les enfants ? Où sont mes enfants ?» hein. Donc, quand vous demandez, regardez comment font les hommes et les femmes différemment là-dessus. Quand vous demandez à une mère où sont ses enfants, elle va vous dire où ils sont actuellement. Ik et nous, ici et maintenant, on va dire il ou elle doit être là, en train de faire ça, etc. Tandis que quand le père vous lui posez la même question, il va pas répondre de la même façon. Il va dire éventuellement ce qu'ils font dans la vie. C'est-à-dire un tel est médecin, un tel est pharmacien, etc. Et non pas où ils sont maintenant, hein, vous voyez. Donc la relation père-enfant est beaucoup plus abstraite. que la relation mère-enfant. Il me semble, oui.
Non, ça dépend, ça dépend.
Ça dépend, ça dépend. Ben, vous avez raison d'être sceptique. La chair de ma chair, hein, je reprends Fédo, hein, dans « Mais ne te promène pas toute nue », que la chair de ma chair voit ma chair, etc. Donc, vous voyez, la partialité des entrailles là-dessus. Alors, nous allons écouter donc une chanson très vieille et kitsch, peut-être, sur l'attachement à la mère. Hein.
J'ai le cœur à la joie, garçon du voisinage, ne comptez pas sur moi. Je vous suis infidèle, car j'ai choisi déjà. Viens maman, fais-toi belle, viens maman, prends mon bras. Viens, je t'emmène au bal masqué, maman, je t'aime, allons danser. Maman, te quiero. Une pluie de serpentins, tout éblouie, tu bats des mains. Mama, oi, mama, te quiero. Minuit s'approche, c'est notre ami. Le rêve enfauche, il nous conduit. Suivons la foule des gens heureux. La joie s'écoule, c'est merveilleux. Et je souris lorsque l'on dit autour de moi. La plus jolie maman, c'est toi. En te voyant si belle ainsi, chacun nous prend pour deux amis. Maman, te quiero. Quand tout s'endort, quand tout prend fin, on danse encore sur le chemin. Maman, te quiero. Et la lune se voile et le coq va chanter, car la dernière étoile trop tôt nous a quittés. Au jardin qui s'éveille, allons dire un bonjour. Viens maman, mon cœur veille au plaisir du retour. Viens sur le banc où les serments de tes 20 ans chantent gaiement. Maman, te quiero. Doucement ton cœur s'endort et c'est l'instant des rêves d'or. Maman, oi, maman, te quiero. Jeux et manèges vont revenir, bals et cortèges vont refleurir. Suivons la foule des gens heureux, la joie s'écoule, c'est merveilleux. Mais à quoi bon tant de chansons, tant d'illusions, puisque maman, tu n'es plus là. Seul je m'en vais, la vie s'en va. Seul je m'en vais, tu n'es plus là. Maman, te quiero. Oh, toi si belle, écoute-moi. Du haut du ciel, veille sur moi. Maman, oi, mamita. Maman, te quiero.
Vous êtes sur FM+, dans l'émission Des mots pour le dire.
Toujours des mots pour le dire avec Michel Théron. Alors Michel, on pourrait dire masculin, féminin, la première partie masculine, la deuxième partie féminine. Et là, on arrive à une troisième partie, je ne sais pas comment la définir, mais elle va être tellement courte puisque la deuxième partie, on a pris le temps. Du coup, là, on va courir après le temps.
Voilà,
c'est Chronos, hein, c'est Chronos, ouais, qui nous détrône.
Il dévore ses propres enfants, Chronos. Hein. Le temps nous dévore, effectivement. Donc, cet archétype paternel, nous en avons besoin, me semble-t-il, et la carence essentielle. Alors, si j'ai choisi Rinaketti avec l'archétype maternel, hein, qui doit effectivement nous, même quand la mère est morte, nous accompagner, comme Cendrillon qui va pleurer sur le tombeau de sa mère morte. Hein. Donc, voilà, on a besoin de l'archétype maternel. En dernière chanson, on écoutera Sylvie Vartan sur l'archétype paternel. Hein. Donc, on a besoin de l'archétype paternel, et peut-être que la la carence essentielle de la société moderne, c'est précisément que l'homme y est orphelin de père. Et en cela, le jeu d'homme d'aujourd'hui serait un nouvel Hamlet. Hamlet, bon, hélas, n'a plus de père, puisque sa mère a assassiné son père pour pousser son amant sur le trône. Donc, la dimension d'exigence incarnée par l'archétype du père n'est plus sentie. Qu'est-ce que j'appelle exigence? Bon, il y a le jeu de mots de Lacan, père, repère. Donc, le père incarnant la loi va donner des normes et des règles à ne pas transgresser, etc. Vous conviendrez que l'adolescent a toujours besoin de modèles d'identification. Par exemple, il orne les murs de sa chambre de posters, qu'il s'agisse de footballeurs, de chanteurs, naguère, de militants révolutionnaires. Maintenant, il n'y a plus de posters du Che, je pense, dans la chambre des adolescents. L'adolescent a toujours le besoin d'admirer, de respecter quelqu'un. Dans Antigone d'Anouilh, Aimon dit à son père Créon qu'il est trop seul et que le monde est trop nu s'il ne peut plus l'admirer. Alors hélas, Créon répond que on est tout seul et que le monde est nu et que être un homme, c'est voir en face un jour ce qu'est son père en réalité. Et effectivement, c'est une épreuve très redoutable. Flaubert disait, il ne faut pas toucher aux idoles, la dorure en reste aux mains. Mais je pense que, comme Giraudoux le disait, Electre cherche son père dans son père et sa mère dans sa mère. Il y a une antanaclase, ici un miroitement. C'est-à-dire que dans la mère réelle, Electre cherche la mère idéale, etc. Donc, je crois que le père, finalement, est nécessaire comme repère dans une culture. Et une culture où l'archétype du père n'existerait pas serait amputée d'une dimension fondamentale. Alors, peut-être, et là, c'est une piste que je suggère pour terminer l'émission, peut-être y a-t-il un risque que notre culture soit dans ce cas. La mère grandit aujourd'hui de l'effacement du père. Nous assistons à des comportements de régression, à la vie fœtale, à la vie intra-utérine, à la vie abritée. C'est l'époque du cocooning, où l'on a la nostalgie de la matrice. Le succès d'un film comme Le Grand Bleu de Luc Besson illustrait bien cela. Il s'agit, et c'est terrifiant, de mourir comme asphyxié, en apnée, par la réunion à la matrice, dans le liquide intra-utérin. Donc, si vous prenez un autre film de Besson qui s'appelle Nikita, alors l'héroïne, là il s'agit d'une héroïne, eh bien elle bascule dans le gangstérisme et la délinquance par carence de l'image du père, vous voyez. Donc Le Grand Bleu, c'est la prédominance du modèle maternel dans laquelle on va s'étouffer en quelque sorte, et Nikita, c'est l'explosion de la violence quand le père, qui est l'incarnation de la loi, est absent. Donc je crois que le père, avec ce qui le caractérise, c'est-à-dire le langage, est nécessaire, et il faudrait réfléchir à ce qu'est la parole. La parole, c'est une prise de distance vis-à-vis du monde et des désirs, une séparation avec eux. C'est une distance prise avec le geste instinctif ou réflexe. Je parle de la vraie parole, et non pas du bavardage ou du gazouillis des enfants. Aujourd'hui, parler se dit gazouiller, c'est Twitter, le gazouillement, vous voyez. Alors, ça n'a rien à voir avec le logos, Twitter, le gazouiller, que ça veut dire? Ça veut dire régresser au berceau, en quelque sorte, Non. Je crois que le vrai langage, c'est une séparation d'avec le contact. Tandis que la mère, c'est le contact. La mère, on se réfugie auprès d'elle. La mère incarne le silence. Alors, ce silence invalide toute parole. Parfois, il est supérieur à toute parole. Mais enfin, quand même, il nous faut parler. Nous devons parler. Et par les mots, alors, nous séparerons, justement, de ce désir de réunion à la mère. En tant qu'ancien professeur, j'ai toujours pensé qu'il y avait, entre les étudiants et moi, ou les élèves et moi, comme une vitre qu'on ne voyait pas, une vitre transparente, qui excluait tout contact. Donc, je devais leur transmettre le savoir ou la parole, mais il ne fallait pas les toucher. Alors, ça valait effectivement pour le lycée, etc. J'admets que dans l'école primaire ou à l'école maternelle d'abord, les maîtresses puissent embrasser les élèves. À l'école primaire, pourquoi pas, je ne sais pas. Mais enfin, passer une certaine limite, eh bien, il ne faut pas mélanger les choses. Le rôle du professeur, c'est de ne pas entrer en contact physique avec les élèves, mais de leur communiquer la parole. Donc, comme j'ai pris Rinaketti, l'hymne à la mer, j'ai choisi Mon père de Sylvie Vartan, qui est une vieille chanson aussi, mais qui est très belle et qui incarne justement cet archétype paternel. Nous avons besoin des deux.
Merci Michel, puisque c'est maintenant c'est la veille de Noël. Alors les anges masculins, féminins, peut-être ce sera le sujet d'une autre émission. Merci à vous, bonne fête à tous et à la semaine prochaine.
À bientôt.
Donc la semaine prochaine, ce sera des rediffusions et puis on reprendra ensemble à partir de la deuxième semaine de janvier.
Joyeuses fêtes à tout le monde. Au revoir.
Au revoir.
Vide, sans son désordre, sans sa voix, ça me semble encore impossible. Pourtant, il y a 2 ans déjà, ma mère a rangé tous ses livres et ses outils de jardinier, tous ces objets qu'il faisait vivre, qui eux aussi vont s'ennuyer. Il ne parlait pas de la guerre, pourtant mon héros, c'était lui. J'étais si fière qu'il soit mon père, fière de m'appeler comme lui. Ses colères étaient des tempêtes, lorsque j'avais désobéi. Et puis il pleurait en cachette, parce que j'avais un premier prix. C'était plus que de la tendresse qu'il avait pour tous nos rosiers. Il peignait avec maladresse. C'est toujours moi qui posais. Je sais bien que je lui ressemble. Je suis têtue comme il l'était. J'ai ses yeux et ses côtés tendres. Oh, j'aime tout ce qu'il aime. Et mon frère, et tous mes souvenirs d'enfant, c'est mon ami et mon père, il me manque bien souvent.